CFM en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour Politiquement Votre, le rendez-vous politique de CFM Radio. Et à quelques semaines des élections sénatoriales, on poursuit notre série d'entretiens avec les candidats en Tarn-et-Garonne, avec pour objectif de mieux comprendre leur parcours, leur vision du rôle du Sénat et les priorités aussi qu'ils souhaitent porter au niveau national. Notre invité aujourd'hui, c'est Rodolphe Portolès, conseiller régional d'Occitanie et candidat donc aux élections sénatoriales de septembre prochain, sous les couleurs du Parti communiste français. Avec lui, nous allons évoquer les enjeux auxquels sont confrontées les collectivités locales, les attentes des élus des départements, sa candidature au Sénat, mais aussi les grands défis politiques et institutionnels qui se dessinent déjà à l'approche de l'élection présidentielle de 2027. Rodolphe Portolès, bonjour.
Bonjour Kader.
Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à vous sur CFM Radio.
Toujours beaucoup de plaisir de venir vous rejoindre dans vos studios. C'est un moment important et intéressant de la vie politique locale.
C'est un plaisir partagé. Les municipales de Montauban, on y revient rapidement, Rodolphe Portolès. Cette année, vous n'étiez pas sur la ligne de départ dans aucune des listes, alors qu'on avait l'habitude de trouver votre nom, Rodolphe Portolès, lors des candidatures aux élections municipales de Montauban. Vous n'y étiez pas. Est-ce que vous avez un regard particulier sur ce qui s'est passé à Montauban, particulièrement ?
Non, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire, enfin voilà, je pense que malheureusement le résultat qui a été présent au soir du second tour était celui que j'avais prédit, malheureusement, parce que quand la gauche part divisée et n'arrive pas à se retrouver sur un programme, eh bien on ouvre la porte à l'extrême, et notamment à l'extrême droite, voilà, donc, et à Montauban aujourd'hui, c'est l'extrême droite qui est aux manettes, malheureusement, comme dans d'autres villes du département, Beaumont-Lomagne, Moissac, et aux portes d'autres cités tarn-et-garonnaises. Donc effectivement, la stratégie qui a été mise en place n'était pas la bonne, mais en tout cas, ça n'empêche qu'il y a une très bonne campagne des candidats, que ce soit Arnaud Yon pour le PS ou Samir Chiqui pour la gauche autour du Parti communiste, du NPA et de l'AFI. Les deux candidats ont fait une très bonne campagne. Oui. Malheureusement, ils n'ont pas su se retrouver au second tour.
La gauche, elle n'a pas remporté donc la mairie, mais elle a retrouvé une certaine visibilité, en tout cas le temps de l'élection. Est-ce que vous ne regrettez pas que finalement, une fois les scrutins passés, ça se disperse, il n'y a plus de voix forte, notamment à gauche, à Montauban?
Bon, il y a Arnaud Yon quand même qui fait le job, hein, voilà, oui. On sait qu'il est à son deuxième mandat et demi, puisqu'il était rentré lors d'un précédent mandat en cours de route, donc on sait qu'il fera le job, il connaît bien les dossiers maintenant, donc il sera le porte-parole de la gauche, voilà, effectivement, moi ce que je regrette, c'est de ne pas avoir réussi à associer l'ensemble des candidatures, parce que je pense qu'effectivement, c'était gagnable, quoi, voilà, quoi.
Mais, c'était gagnable pour vous?
C'était gagnable, absolument.
Et vous regrettez pas de ne pas avoir lancé dans cette campagne?
Non, je suis resté fidèle à mes idées, à la ligne que j'avais donnée, tracée depuis plusieurs années. Le seul regret que j'ai, c'est que voilà, je suis plus dans les dossiers locaux. Voilà, et il y a de quoi faire, il y a de quoi travailler, il y a de quoi intervenir. Voilà, c'est le seul regret que j'ai de ne pas être au centre des débats de la commune de Montauban et du Grand Montauban.
Est-ce que plus largement, et selon vous, ces élections, ces scrutins dans le département, ils ont recomposé durablement l'échiquier politique, les forces en présence en tout cas dans le département. On voit que ça bouge un peu partout. Hier ou avant-hier, Alain Botte a été donc nommé président du Parti radical de gauche Tarn-et-Garonne. On voit que Brigitte Barège aussi a des velléités pour asseoir une certaine légitimité départementale. Comment vous voyez ces choses-là, tout ce qui se passe?
Mais je pense qu'au contraire, plutôt que de figer, moi j'ai plutôt le sentiment que ça s'éparpille de plus en plus, et on en parlera au moment des élections sénatoriales avec une multitude de candidatures qui arrivent sur l'échiquier, sur la ligne de départ. Mais non, moi je pense que ça ne fiche pas, au contraire, ça ouvre plein de perspectives. À qui profitera tout ça, je ne sais pas. Voilà, bon, l'interrogation, elle doit être là, quoi, à ce niveau-là.
Alors, les sénatoriales de septembre prochain vont se jouer auprès des grands électeurs, puisque ce n'est pas un suffrage universel. Et résultat des municipales, modifie-t-il, selon vous, les équilibres au moment des sénatoriales?
Alors forcément que ça va modifier, parce que dans beaucoup de conseils municipaux, il y a de nouveaux élus qui arrivent. Donc effectivement, ça va apporter un regard neuf, un regard nouveau sur ces élections sénatoriales. Est-ce que les équilibres seront pour autant perturbés? Je vous dirai le jour du scrutin. Voilà. En tout cas, il va y avoir effectivement une déperdition des voix pour les uns et pour les autres au regard de la multitude des candidatures qu'il va y avoir.
Le scrutin, donc, c'est le 27 septembre. Vous avez choisi donc de porter les couleurs du Parti communiste en Tarn-et-Garonne. Pourquoi vous avez décidé de franchir ce pas, de vous présenter à cette élection?
D'abord parce que le Parti communiste a toute sa place dans une élection sénatoriale. Voilà, déjà, pour commencer. Et ensuite, parce que la gauche, au-delà de ma candidature, la gauche a toute raison d'être présente à cette élection. On a deux sénateurs, de droite sortant. La gauche a toute sa place et mérite, et je pense que les électeurs de gauche du Tarn-et-Garonne méritent et ont le droit d'avoir la chance d'avoir un sénateur de gauche qui les représente.
Alors pourquoi, donc, c'est Gérard Kreis
pour le PS.
Pour le PS, vous, Rodolphe Portels, pour le Parti communiste.
Anlus pour les radicaux de gauche.
Anlus pour les radicaux de gauche, bien sûr.
On attend aussi
une candidature de Cécile Roblin, qui n'a pas encore été, entérinée par le mouvement Europe Écologie des Verts. Mais pourquoi vous n'avez pas décidé, finalement, d'avoir un candidat unique, comme ça peut le faire aux élections municipales, par exemple?
Parce qu'on est sur des prérogatives nationales totalement différentes. On n'est pas sur un programme, alors on est sur des idées, on est sur une défense d'un projet de société.
Plus global.
Donc, effectivement. Après, il y a deux tours aux élections sénatoriales. Hein. Moi, j'ai déjà dit aux autres candidats, que ce soit Anne-Luce pour le PRG ou Gérard Kreis, que je me désisterai, si je n'arrive pas en tête au soir après le premier tour, je me désisterai systématiquement pour le mieux placé, voilà. Mais au premier tour, je pense que tout le monde a la légitimité d'être présente sur la ligne de départ.
Beaucoup de Français connaissent finalement assez mal le rôle d'un sénateur. Si vous deviez résumer, vous, Rodolphe Portolès, en quelques mots, ce que vous souhaiteriez apporter au palais du Luxembourg, si vous étiez élu, qu'est-ce que vous pourriez dire?
Je pense que un élu communiste au sénateur, alors on siège dans un groupe où il y a déjà 18 élus, actuellement il y a 18 sénateurs sortants, un groupe qui est présidé par Cécile Cukierman, donc qui est sénatrice de la Loire. Autour, on a des personnalités, Yann Brossa à Paris, qui a fait un travail considérable sur le logement. On pourrait parler aussi de Fabien Gay, qui est le directeur de publication de l'Humanité. On pourrait parler de Pierre Ouzoulas, qui est vice-président du Sénat et qui fait un travail remarquable sur la laïcité. Donc à travers ces quatre exemples que je cite, on voit le rôle que peut porter un élu communiste qui porte des valeurs de gauche aux côtés des collectivités locales qui sont en souffrance, parce que de par mon rôle d'élu régional, je suis souvent en contact avec les élus locaux, et on voit bien qu'effectivement, aujourd'hui, face à l'austérité qui est imposée par l'État sur les collectivités locales, elles ont de plus en plus de mal à faire face à leurs besoins.
On va en parler justement des demandes, notamment des collectivités. On reste sur le groupe communiste au Sénat, vous avez dit 18, hein, c'est
18,
ça
18, oui, 18. Le groupe CRCK, présidé par Cécile Cukierman.
Comment un groupe de 18 sénateurs, sénatrices, peut-il concrètement faire avancer ses idées lorsqu'il est dans l'hémicycle?
Alors, trois exemples. Si je prends l'exemple de la loi Gemapi qui a été votée en 2018, donc qui garantit, alors c'est la gestion de l'eau et des risques liés aux inondations. Voilà. Donc, et c'est notamment le fonds Barnier qui découle de cette loi Gemapi, donc qui est alloué d'une somme de 300 millions à peu près par an. Et pour financer ce budget, en fait, c'est les assurés eux-mêmes qui payent à travers le, comment on appelle ça, le cadenas. Donc un surcoût d'assurance.
Surcoût d'assurance qui permet de financer.
Par exemple, les sénateurs ont dénoncé, les sénateurs du groupe auquel j'appartiendrais si j'étais élu, donc ont dénoncé ouvertement et publiquement un écart de 150 millions entre ce que rapporte le CatNat de surcoût de prime d'assurance, 450 millions, et le budget Barnier qui est de 300 millions. Donc la question, c'est où sont passés ces 150 millions? On peut s'interroger effectivement, et le rôle d'un élu communiste, c'est effectivement de dénoncer quand il y a des écarts comme ça considérables, et s'interroger sur l'utilisation de l'argent public. Autre exemple, oui. Tout simple, par exemple, je pourrais parler de la question des mobilités. La mobilité, et peut-être qu'on fera le lien avec les politiques régionales, mais on voit bien qu'aujourd'hui, la question des mobilités est essentielle. Et on peut dénoncer, on voit la bataille qu'on a menée ici, en Occitanie, pour obtenir le financement de l'État sur la LGV, la future ligne LGV. C'est aussi le désengagement de l'État, donc qui est absolument important. Voilà, et donc il faut dénoncer. L'État doit prendre ses responsabilités dans ces grands projets qui sont quand même absolument nécessaires pour un territoire. Et enfin, dernier exemple que je prendrai, c'est l'action qu'a menée Fabien Gay au niveau du Sénat pour dénoncer les 211 milliards d'exonération fiscale pour les grandes entreprises sans aucune contrepartie. Et je pense qu'il a posé un débat de fond dans notre société aujourd'hui. Oui, alors je ne m'adresse pas là aux petites entreprises locales qui sont en difficulté. Moi, je parle des grands groupes internationaux qui parient dans tout ce qui est bourse, etc. Donc, pour reverser des dividendes aux actionnaires. Et donc, ils bénéficient de 211 milliards d'euros de défiscalisation. Et c'est Fabien Gay qui l'a dénoncé au niveau du Sénat. Mmh. Donc, on voit le rôle que peut apporter un élu communiste donc, au niveau de cette Assemblée.
Votre candidature, Rodolphe Fontanès, c'est celle d'un parti politique, le Parti communiste en l'occurrence, ou celle d'un homme de terrain, d'un élu de terrain, ou les deux?
C'est les deux. Alors, je suis d'abord un homme de terrain, un élu de terrain. Je pense que j'ai fait mes preuves à la fois sur Montauban ou Grand Montauban en tant qu'élu d'opposition, et là en tant qu'élu régional depuis 5 ans et demi maintenant. Je pense qu'effectivement, les gens reconnaissent mon implication, ma présence. J'étais hier soir encore à Saint-Antonin pour l'inauguration de la maison de santé pluriprofessionnelle. On parlera peut-être aussi de ces dossiers de lutte contre les déserts médicaux et le rôle que peut jouer le Sénat là-dessus. Mais voilà, donc je suis quelqu'un de terrain, quelqu'un au contact des élus, quelles que soient les étiquettes. Je crois que c'est ce qui me caractérise, c'est-à-dire que je suis pas sectaire, loin de là, et je pense que les gens ont plaisir à m'accueillir dans leur collectivité. Il y a même des maires qui m'appellent pour me demander quand est-ce que je vais venir les voir sur leur collectivité pour discuter des sénatoriales, des élections sénatoriales. Donc c'est la preuve qu'effectivement il y a à la fois une étiquette politique, mais avant tout un élu de terrain qui travaille pour l'ensemble des collectivités du territoire.
Vous avez évoqué donc la région, vous êtes conseiller régional d'Occitanie. Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels sont confrontés la région Occitanie?
Alors, on le voit très, très clairement, très concrètement. D'abord, c'est la lutte contre la baisse du pouvoir d'achat des familles. Ouais. Et en tant que président de la commission éducation, jeunesse et orientation, je le pratique et je milite en ce sens-là avec la majorité régionale pour faire de la rentrée scolaire la moins chère de France. Donc, c'est l'ordinateur gratuit, c'est les livres gratuits, c'est les transports gratuits pour plus de 162 000 lycéens. Enfin, voilà, donc c'est lutte contre la perte de pouvoir d'achat. Donc, ça, c'est un défi. Deuxième défi essentiel, c'est la mobilité. Je parlais des engagements de l'État. Ben, en Occitanie, nous, on a réouvert deux lignes. Montréjoluchon, il n'y a pas très longtemps. Il y a 2 ans, la rive droite du Rhône. Donc, il n'y a pas beaucoup de régions qui rouvrent des voies. Au contraire, voilà. Bon. Et troisième défi, c'est la lutte contre les déserts médicaux. Et donc là, les politiques en dehors de nos compétences, les politiques régionales, à la fois de soutien à la création de centres de santé, où un salarié, aujourd'hui, on est à plus de 133 professionnels de santé qui sont salariés par la région, et l'aide dans l'installation d'une médecine libérale à travers des maisons de santé comme à Saint-Antonin hier soir. Donc, voilà des défis importants. Et tout ça, en fait, englobe un projet essentiel qui est aussi, ou un objectif essentiel, qui est de lutter contre les dérèglements climatiques. Et l'actualité d'aujourd'hui nous le prouve malheureusement. En Occitanie, on sait que l'Occitanie sera certainement la région de France la plus impactée par les changements climatiques dans les années à venir. Elle l'est déjà. Depuis 48 heures, les pompiers, je salue l'engagement des sapeurs-pompiers
lutte contre les
incendies, on le revoit dans l'Aude, dans l'Hérault, dans les Pyrénées-Orientales, à Canet-en-Roussillon. Dans l'Aude, l'année dernière, on a vécu l'enfer pendant plusieurs jours, pendant pratiquement 2 semaines. Et donc, rebelote, on recommence dès cette année. Donc voilà des enjeux importants aujourd'hui auxquels la région va être confrontée, c'est répondre au dérèglement climatique par des actions concrètes. Et donc là, effectivement, effectivement, la question de mobilité est essentielle, la question de l'aménagement des locaux scolaires est essentielle, la question aussi de favoriser l'aménagement des locaux, qu'ils soient publics ou privés, pour lutter de façon à mettre en place une isolation thermique positive, oui, est aussi importante. Enfin, voilà des enjeux qui me paraissent essentiels pour les années à venir.
Justement, je fais un pas de côté. Vous parlez de transition écologique, du dérèglement climatique. Vous étiez, et je vous pose la question à double casquette, parce que à la fois vous étiez directeur d'école, mais aussi élu d'opposition à Montauban. Pendant la première canicule que nous avons subie, le maire de Montauban, Didier Lallemand, a annoncé un budget important, un investissement de 15 millions d'euros, je crois, si je ne me trompe pas, c'est 15 millions d'euros pour une climatisation de toutes les écoles de Montauban dès l'année prochaine. Est-ce que vous saluez cette mesure ?
Alors c'est un pansement sur une grosse plaie.
Ah bon ? Ah
ben oui, ça va être, on va répondre dans l'immédiateté, peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas la seule solution. La vraie solution, c'est l'isolation thermique des bâtiments, c'est le double vitrage, c'est une isolation, c'est des cours qui soient désimperméabilisés avec des plantations d'arbres, avec des zones d'ombre, qui permettent d'avoir des façades, des bâtiments à l'ombre. Ben voilà, la vraie, sur la durée, c'est ça, on sait très bien qu'aujourd'hui, bon, même si les climatisations aujourd'hui sont, on va dire, un peu plus vertueuse, mais on sait qu'elle participe aussi à la production de CO2, quoi. Voilà. Donc, bon, c'est dans l'immédiat, oui, c'est une action qu'il faut saluer parce qu'elle va permettre effectivement d'accueillir dans de bonnes conditions les élèves dans les écoles de Montauban. Mais sur du long terme, ça ne suffira pas. Aujourd'hui, si on ne prévoit pas,
il faut aller plus loin.
Il faut aller bien plus loin, bien plus loin. Et d'ailleurs, je l'ai dénoncé lors du précédent mandat. On a pris beaucoup de retard sur Montauban dans la rénovation des bâtiments scolaires.
Je reviens sur la région. Est-ce que, avec le recul, on a quand même quelques années de recul, est-ce que vous pensez que avoir eu l'idée de ces 13 régions aussi étendues, ça reste vraiment une très bonne idée, selon vous ? Parce que, y compris des personnes qui sont des conseillers régionaux, y compris des agents de la région, ils regrettent finalement cette étendue. Est-ce que on ne devrait pas revenir sur ces régions ?
Non, on ne peut pas revenir en arrière aujourd'hui. Pour moi, on ne peut pas revenir en arrière. Le pli des prix, donc il faut poursuivre, il faut peut-être, et d'ailleurs ce sera un enjeu du Sénat, de travailler sur une nouvelle voie de décentralisation pour favoriser encore, ou développer encore les compétences des collectivités régionales. Mais je ne pense pas qu'on puisse revenir en arrière. Par contre, ce qui est important, et c'est le mot d'ordre qui est donné par notre présidente régionale, Carole Delga, c'est d'être des élus de terrain. C'est d'être des élus de terrain. Il ne faut pas être. Alors, la difficulté, c'est qu'effectivement, il y a 13 départements. Donc, je vous assure, moi, j'ai déjà bouffé une voiture en déplacement. Hein, voilà. Donc, c'est 35-40 000 km par an, voilà, pour se rendre dans les différents départements, dans les différents. Donc, être présent sur le terrain.
Justement, par rapport au dérèglement climatique, l'émission de gaz à effet de serre, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de revenir sur ce plan-là?
Moi, j'y crois pas, mais il y a le train, moi je prends le train quand je le peux, chaque fois je prends le train, à chaque fois je peux pour aller sur Montpellier, quand j'ai des réunions sur Montpellier, je prends l'intercité qui quand il n'est pas confronté à des difficultés caniculaires comme aujourd'hui, où il peut difficilement rouler sur les voies, mais en tout cas, bon, moi je prends le train dès qu'on le peut, voilà, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui il faille revenir sur cette décision des grandes régions, il faut donner du temps au temps un petit peu, et je pense qu'effectivement ça permettra de fonctionner correctement encore mieux dans les années à venir.
Alors depuis plusieurs années, les maires que vous connaissez, ils alertent sur leurs difficultés, les normes, l'accès aux soins, on en a parlé, les difficultés budgétaires, maintien de services publics. Quel est selon vous le sujet le plus préoccupant pour les maires en Tarn-et-Garonne?
Alors, en Tarn-et-Garonne et au-delà du Tarn-et-Garonne, il y a un mot qui revient alors systématiquement, c'est le mot simplification. Simplification, ils en ont assez, ils n'en peuvent plus. Aujourd'hui, un petit maire d'une commune, s'il n'a pas une secrétaire de mairie hyper formée, hyper compétente, il est en difficulté pour suivre ses dossiers, pour monter ses dossiers, devant les exigences administratives qui sont imposées, à la fois par l'État, par la région, par les départements. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, l'ensemble des partenaires qui accompagnent une collectivité a des exigences. Je crois que le fait mot, déjà, la première chose, c'est la simplification.
Mais simplification, vous ne craignez pas qu'à force de simplifier, on nous dégrade davantage ?
Non, parce que la simplification, ça peut être, par exemple, une fusion des dossiers, c'est des demandes. Mmh. On le voit dans le cadre des PETR, hein, des projets qui sont portés par l'État ou par le CTO, par les contrats territoriaux d'Occitanie. On a fusionné ces demandes. C'est-à-dire qu'au lieu de faire deux demandes distinctes, il y a 5 ans de cela, aujourd'hui, un seul dossier permet d'ouvrir des aides financières sur les deux instances, l'État et la collectivité régionale. Oui. Donc la simplification, ça passe aussi par une fusion peut-être des demandes qui permettent, à travers un seul dossier, d'ouvrir des droits à différents niveaux.
Alors notre département de Tarn-et-Garonne reste un département qui est marqué par une forte ruralité. Est-ce que les politiques nationales prennent-elles suffisamment en compte cette réalité?
Non, après c'est le deuxième point, hein, après la simplification, c'est accompagner les collectivités locales, et notamment en Tarn-et-Garonne, qui a une spécificité de ruralité, voire même d'une ruralité importante dans certaines zones. Donc c'est effectivement permettre à ces petites collectivités de pouvoir poursuivre financièrement leur travail quotidien, répondre aux besoins de leurs habitants. C'est aussi pour ces petites collectivités maintenir des services publics de proximité. On voit bien la difficulté que peuvent rencontrer les gens par rapport à une déclaration d'impôt, par rapport à l'école, l'hôpital, les soins, enfin. Donc c'est essentiel. Et après, on l'a dit, on a déjà évoqué, lutter contre les déserts médicaux, qui est extrêmement important et une difficulté essentielle des habitants du Tarn-et-Garonne aujourd'hui.
Vous croyez qu'on a la main sur les déserts médicaux ?
Alors, on a la main, la preuve, la région. Alors, on n'a pas la main, bien sûr, mais en tout cas, la région, en tout cas, impulse déjà des actions qui permettent de lutter ou de limiter ces déserts médicaux ou de favoriser l'implantation de médecins. Donc, effectivement, c'est un dossier qui est important, c'est un dossier national. Oui. Il faudra qu'il y ait des décisions nationales à un moment donné qui soient prises. Voilà. Mais en tout cas, on peut au moins impulser des actions qui permettent de diminuer ou de limiter l'action des déserts médicaux.
Alors, demain, vous êtes sénateur, Rodolphe Portelès, si vous aviez une réforme à proposer pour renforcer les collectivités locales, notamment les collectivités rurales.
Alors, on voit bien ici, qui est un département rural, mais agricole aussi, il y a une loi qui fait, moi, une action qui me paraît être une prioritaire, c'est défendre aussi les producteurs locaux. Et défendre aussi les productions locales. Voilà, et permettre aux agriculteurs de vivre dignement aussi de leur travail. Je pense que c'est ça aussi. Je pense que la Chambre d'agriculture, avec son nouveau président, a pris conscience de ce modèle agricole, il faut le repenser. Donc, il faut permettre aussi de travailler à leur côté pour permettre, alors ça passe par des actions concrètes aussi, là aussi je fais référence à ce que nous menons au niveau de la région, avec des plateformes Occitalim qui répertorient plusieurs milliers de fournisseurs locaux dans toute l'Occitanie, mais on a la même chose dans le pendant avec le 82 dans mon assiette au niveau départemental. Pourquoi ne pas fusionner, par exemple, ces deux instances pour permettre aux producteurs locaux d'avoir des débouchés sur des clients locaux qui s'appuient sur des producteurs locaux. On le sait, donc ça permettrait aussi d'éviter que des camions traversent toute l'Europe pour emmener des produits de notre pays. Donc c'est favoriser une alimentation avec un calendrier naturel, c'est-à-dire manger les tomates à la saison, manger les fraises quand c'est la saison et pas manger en plein hiver. Enfin voilà, donc on peut. Moi, je pense qu'il y a une loi qui est importante. Et d'ailleurs, André Chassaigne, qui était le président du groupe communiste à l'Assemblée il y a quelques années, donc avait d'ailleurs commencé à impulser une loi pour une retraite digne pour les agriculteurs, hein, donc en proposant un plateau minimum, hein, pour les retraites agricoles.
Ce sera votre combat principal?
Ce sera un de mes combats principaux. Si j'étais élu, je pense qu'accompagner les agriculteurs qui souffrent aujourd'hui dans nos départements et qui ont besoin d'être écoutés, d'être entendu, et surtout de leur garantir de vivre dignement de leur travail.
Alors, le groupe communiste au Sénat, il défend traditionnellement les services publics, les collectivités, le monde du travail. Est-ce que c'est toujours, selon vous, la priorité ? Absolument. Ben,
je pense que Fabien Roussel le dit très clairement. Oui. Aujourd'hui, la priorité pour le Parti communiste, c'est de retrouver du lien avec le monde du travail. Et c'est de vivre dignement aussi de son travail. Ça veut dire aussi des salaires qui soient aussi, qui permettent. Aujourd'hui, quelqu'un qui gagne le SMIC à 1500 euros, quand il paye 900 euros de loyer tous les mois, oui. Comment voulez-vous qu'il s'en sorte? Ce n'est pas possible, quoi. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la question du travail et d'une rémunération digne au travail est essentielle. Et c'est aussi un combat qui est mené au niveau du groupe communiste.
À moins d'un an de l'élection présidentielle, la gauche vous paraît-elle en mesure de retrouver une dynamique commune, selon vous, Rodolphe Portelès?
C'est compliqué. C'est compliqué parce que les égos des uns et des autres font qu'elles se personnalisent de plus en plus. Donc, au-delà d'un programme, c'est les personnalités qui prennent le dessus. Je pense que on n'arrivera pas à remporter cette élection si on n'arrive pas à se fédérer autour d'une candidature commune à un moment donné. Il faudra peut-être y arriver. Aujourd'hui, il y a pléthore de candidatures, dont celle de Fabien Roussel, que je soutiens.
Mais qui n'est pas encore actée.
Mais qui n'est pas encore actée, puisqu'on est en congrès.
Voilà.
Le congrès a démarré ce matin.
Il y a une plateforme qui a été créée, puis c'est au terme de ce processus que la décision sera prise.
Au terme du congrès de 3 jours qui se déroule à Lille, là, qui se termine dimanche, un vote sera proposé.
Est-ce que vous souhaitez que Fabien Roussel soit candidat ou vous souhaitez?
J'ai soutenu la candidature de Fabien Roussel à ce jour, donc, pour l'élection présidentielle.
Merci beaucoup, Rodolphe Portelès, d'être venu sur CFM Radio. On se retrouve en septembre pour la campagne à proprement dit.
Sans problème.
Merci.
Vous comptez sur moi.
Merci.
Merci.
À très bientôt.
À très bientôt.
Vos podcasts et replays, podcasts et replays, cfmradio.fr.